Vous écoutez Prune en général, Indie Ways en particulier, et vous cherchez peut-être une alternative aux sirènes stridentes et débatteuses qui feignent l'équilibre. Ça tombe bien, nos invités de ce soir assument pleinement leur côté claudiquant, jusque dans leur patronyme, et infusent dans leur musique une énergie contagieuse nourrie par une certaine idée de la démesure tout en mesure. Notre sélection musicale indé de la semaine avec Lame, c'est tout de suite, vous êtes sur Prune, vous écoutez Indie Ways, jingle.
Amis de la musique, vous écoutez pour la première fois
Indie Ways.
Indie Ways.
Indie Ways. 93.
Et oui, Indie Ways 92 FM, le www.prune.net. Bienvenue parmi nous, comme chaque mercredi de 20h à 21h. Je suis donc ce soir avec Lame qu'on va accueillir, mais aussi avec certains de mes chroniqueurs favoris. Une seule chroniqueuse est absente. Mathieu est là.
Salut.
Ça va ?
Ça va très bien,
et toi ? Ça va très bien. Bah écoute, comme la semaine dernière, tout cool, ça fait plaisir de se retrouver chaque mercredi. Parfait. Comme ça. Tu as une couleur musicale, toi aussi, ce soir, malgré un programme allégé au vu de nos invités.
Ouais, on ira plutôt dans le gras ce soir.
Plutôt dans le gras.
Voilà.
Ce sera pas pour déplaire à tout le monde. Benoît est là aussi à la réa.
Bien le bonsoir.
Et bien le bonsoir, mon Benoît. Et toi, ta couleur musicale d'aujourd'hui ?
Alors moi, ce sera expérimental. Dans le rock, mais expérimental.
Expérimental.
Et c'est pas du rock.
Mais expérimental.
Il y a quelque chose qui cloche.
Oui, en effet.
Simous, et là je ne l'avais pas dit, mais Simous des Tripatouilleurs qui nous a, on va dire, rencardé avec Lame, on peut dire ça comme ça. Salut Simous.
Salut Armel.
Rebienvenue, ça fait pas trop longtemps qu'on s'est vu, puisqu'on avait fait ce fabuleux crossover ensemble avec l'ami Pedro. Eh ben écoute. Voilà.
Hein. On est sans Pedro, mais ça et va oui. Bien se passer quand même. Hein.
Et tu nous fais le plaisir d'accompagner Lame ce soir au micro que tu connais bien. Et donc, Étienne et David de Lame. Salut Étienne, salut David.
Salut.
Comment allez-vous ? Bienvenue parmi nous et puis merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très cool.
Merci de nous avoir invités.
Merci à vous.
Et voilà, on va revenir avec vous bien entendu donc sur votre genèse musicale, sur votre parcours, etc. Tout au long de cette heure, on va aussi éplucher un petit peu l'EP qui est sorti en janvier, donc un EP qui est votre premier et qui s'appelle Pleasantly Disappointed. Substance musicale à l'appui, je le disais, puisqu'on va écouter une bonne partie, sauf un morceau qui est un peu trop long, mais on aura l'occasion d'en écouter trois. Et le reste de notre programme allégé, je l'ai dit aussi. Et avant tout, je vous propose le traditionnel morceau d'accueil et de lancement de cette émission. Et cette semaine, j'ai choisi Dent May, le chanteur compositeur, producteur américain, originaire de Jackson, dans le Mississippi, qui n'a pas son pareil pour insuffler des vents de fraîcheur instantanées. On en a bien besoin en ce moment, et ce depuis ses débuts en 2009 et son premier LP, The Good Feeling Music of Dent May and His Magnificent Ukulele. J'avais vraiment peur de ne pas pouvoir le dire d'une traite. Je ne sais pas si vous connaissez l'ami Dent May. C'est désarmant d'évidence, en tout cas pop, et de simplicité et de mélancolie aussi, agrémenté s'il vous plaît d'une bonne touche d'humour. Il assure depuis un service régulier tout en affinant sa patte au fil d'albums plus accrocheurs les uns que les autres, se payant même le luxe d'emmener sa musique dans des sphères un peu plus sophistiquées en préservant sa quiétude apparente. Un brin décalé et détaché, l'air de rien, c'est toujours aussi charmant, et il a dégainé cette fois un crying laughing qui ne déroge pas à la règle, sans doute annonciateur d'un disque imminent. Dent May crying laughing, c'est pour bien débuter l'émission. Vous êtes dans Indie Ways avec nos invités du groupe Lame. On est ensemble pendant une heure.
Falling in love and living it up. Ooh.
On était avec Dent May à l'instant avec Crying, Laughing, un titre tout en paradoxe affiché, ce qui doit parler à nos invités, j'en suis sûr, parce qu'on parle souvent de paradoxe à votre sujet, enfin en tout cas c'est ce que j'ai lu. Étienne et David Delaim sont là, et à l'occasion de la sortie récente de Pleasantly Disappointed, on va commencer tout de suite à parler de tout ça. Pour commencer, on va d'abord évoquer bien sûr la genèse du projet Lame depuis le Big Bang initial, le vôtre, hein, pas le nôtre à tous.
sinon ça va être emmerdant.
Jusqu'à donc ce premier EP, en passant par les étapes d'évolution successives, est-ce que vous pouvez résumer un petit peu tout ça?
Alors, bah pour résumer, moi j'ai cherché à monter un groupe il y a 6-7 ans, et il se trouve que j'ai monté une première mouture avec le mec de ma sœur, qui est guitariste. Suite à ça, on a cherché, autour de mes compos, et suite à ça, on a cherché d'autres icos. J'ai pensé à mon ami Bertrand, bassiste, avec qui j'avais monté un premier groupe quelques années avant. Et ensuite, on a cherché, via des petites annonces, on a rencontré notre ami...
À l'ancienne.
Voilà, Nico, à la batterie, qui est venu sans ses baguettes, les mains dans les poches. Et donc, ça nous a beaucoup plu.
C'était bon signe, ça, voilà. Les mains dans les poches.
Ouais. Bah, en fait, le mec, non, mais vraiment, il est arrivé sans rien. Les gars, par contre, j'ai rien. Et il a été tapé, obligé d'aller frapper à la porte des studios d'à côté.
D'ailleurs, il a toujours pas sa propre batterie.
Il a toujours pas de batterie. Ouais. Vous en avez une commune, et puis c'est lui qui tape.
Il l'emprunte à un pote à lui. Voilà.
Il en a une à lui qui est pas à lui. Mais
Donc Nico, qui est l'un des absents de ce soir.
Exactement.
Il y en a un autre qui est Bertrand.
Qui est Bertrand, voilà. Et donc après, Josh, qui avait monté le groupe avec moi, est parti, a déménagé. Et donc on a recherché un nouveau guitariste lead. Et donc nouvelle annonce, nouvelle petite annonce. Et là, le beau David rencontre. Est arrivé.
Et donc toi, David, tu épluches les petites annonces musicales. Ouais. Tu cherchais un groupe pour...
Ouais, j'étais attentif à ce qui pouvait se faire dans un style qui me parlait. C'est vrai que je m'étais mis au piano parce que j'avais désespéré de trouver. Et puis finalement,
t'as abandonné le piano.
Ce groupe-là qui s'appelait pas Lame au début, mais voilà.
Ouais. Ça s'appelait pas Lame au début, ça s'appelait comment? Ça, j'avais pas l'info.
Ouais, non, effectivement, on évite de communiquer dessus.
D'accord. Mais bon. Ouais, vous avez le droit de pas répondre à.
Je vous répondrai
à toutes les questions
hors antenne.
Mais on parlait de style. Donc, vous êtes plutôt dans un style. Alors, on parle souvent d'étiquette ici, même si on n'aime pas ça, mais vous allez me dire si ça vous va. Rock, mélodique, indie, c'est un petit peu ça. Dans la filière un petit peu Strokes, Interpol, c'est souvent ça qu'on lit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre d'étiquette ou vous revendiquez de votre propre style et peu importe les influences?
Ouais, après, évidemment, personne n'aime se définir avec des étiquettes très précises, mais le but, c'est que les gens qui tombent sur un article ou autre puissent avoir rapidement une idée du style. Ouais. Après, les groupes que tu as cités, c'est effectivement des influences.
Après, chaque musicien a ses influences aussi.
Bien sûr.
Mais ouais, ça reste dans cette idée-là.
On rebrasse un petit peu, de toute manière, ça nous imprègne. Donc forcément, on le retraduit un petit peu dans la musique, même quand c'est involontaire. On va reparler tout ça. On va tout de suite d'abord voir à quoi ça ressemble, Lame. J'ai choisi. Alors, j'ai un peu décousu l'EP, vous me pardonnerez de ça. Ce ne sera pas dans l'ordre. On va écouter 3 morceaux sur 4. Voilà, et on va tout de suite commencer avec le deuxième titre qui apparaît sur l'EP. Ça s'appelle Relieved. C'est ça.
Et
pour le coup, on écoute ça tout de suite dans Indie Ways, et puis on se retrouve avec Lame tout de suite après.
Steel. Oh, she's so cold. perfect ride on me. You're like a good sound, but you ripped out the melody yourself.
Fort dans le micro. Du micro
Indie Ways.
Non mais pas trop.
Non, pas trop.
Indie Ways. Le mercredi
de 20h à 21h. Hey, Retrieved, tout de suite, à l'instant, c'était Lame sur leur EP tout fraîchement sorti. Je rappelle le titre de l'EP, Pleasantly Disappointed, et ce qui me permet de rebondir sur cette question du paradoxe et peut-être du petit jeu de mots avec Pleasantly Disappointed, puisque ça vient d'une expression anglaise qui a été retravaillée par...
En fait, c'est même pas ça.
Non, c'est Pleasantly Surprised.
Voilà. Ouais. Mais en fait, c'est notre ami Bertrand qui n'est pas là ce soir à la base, qui
avec est son l'optimisme géant, voilà. Légendaire.
Okay. Donc le mec, c'est okay. Voilà. Et c'est notre grincheux à nous. Et,
le schtroumpf grognon de l'équipe.
C'est et ça. On discutait d'un concert qu'on allait faire, machin. Enfin bref, il était comme d'habitude un peu négatif. Et il nous dit non mais rassurez-vous, enfin voilà, moi je préfère envisager le pire parce que comme ça après ça me permet d'être agréablement déçu.
Ok,
d'accord. Et du coup ça nous a fait exploser de rire parce que c'était vraiment tellement typique de lui.
Ça okay. Correspond bien quoi.
Qu'on s'est foutu de sa gueule pendant des mois après, puis c'est resté et quand on a dû choisir un titre.
C'est un peu
pour
comme
l'EP, c'est le truc est revenu, j'ai proposé ça. Et puis,
c'est un peu comme la fameuse missive, j'en attendais rien, je suis quand même déçu, c'est ça. C'est un peu cousin c'est de ça.
De toute façon, c'est foutu. Quoi.
Ouais, de toute façon, c'est foutu. On espère que ce n'est pas foutu, et ni pour nous et ni pour tout le monde, bien entendu. Et donc, approfondissons un peu cette notion de paradoxe dont j'ai parlé, dont on parle depuis le début. C'est quelque chose qui ressort pas mal quand on se penche sur votre univers. Et il y a aussi ce patronyme, Lame, boiteux si on traduit littéralement. On doit souvent vous le dire et vous poser la question, mais ça va plus loin que ça. Dans l'écriture et dans la confection même des morceaux, il y a un certain goût pour l'incohérence, mais un peu plus subtil. C'est véhiculé pourtant par des morceaux sacrément bien troussés et pensés, réfléchis dans leur structure. Comment vous pouvez en parler de ça? Comment tout ça s'articule? C'est peut-être une... Je ne sais pas, la question est très ouverte, donc excusez-moi.
Mais, David.
Ouais, bah, on va dire qu'on n'omet aucune piste de réflexion sur la composition. Des fois, on va chercher différents sons, différentes influences. Voilà, donc des fois, il y a plein de tests qu'on fait en répète avant de trouver la bonne recette. Et c'est vrai qu'il y a... Bon,
Ça vient naturellement, c'est quelque chose qui vient naturellement, ou alors c'est pensé cette idée de rupture des fois dans le...
Bah après, de manière générale, il y a déjà un premier niveau qui est que moi j'aime bien quand je compose les mélodies à la base, les morceaux, j'aime bien mélanger entre l'aspect, on va dire, joyeux, ou... si une mélodie est un peu joyeuse, etc., je vais avoir tendance à contrebalancer un peu avec des paroles un peu dark.
D'accord.
Et j'aime bien cette tension-là. Mmh. Et après, ouais, on va chercher toujours... l'inverse de l'évidence, quoi, du truc où n'importe qui le jouerait de cette manière-là. Si tu prends tel type de mélodie, tu vas avoir un schéma
typé,
un peu classique. Je sais pas, par exemple, si t'as un morceau qui sonne un peu blues, tout de suite, le premier réflexe, c'est d'aller dans ce côté blues.
Bien sûr.
Alors que, du coup, pour moi, c'est plutôt l'inverse. Si t'as quelque chose qui est blues, par exemple, tu vas plutôt essayer de le tirer, de lui faire un peu révéler l'autre aspect, quoi. Ouais. Parce que pour moi, ça sert à rien d'aller creuser une évidence.
Ouais. Aller un peu à l'inverse de la facilité, quoi. Des fois,
le contrebalancement de l'évidence, on peut le dire comme ça. Justement, tu parlais des textes, tu es le c'est toi qui écris
les paroles.
Des paroles, pardon. Oui, non, mais il faut être précis dans les termes. Tu as raison de me reprendre. Donc, des paroles, tu es le seul à écrire les paroles et vous écrivez la musique tous ensemble. Comment ça se passe un petit peu dans le processus, justement, et dans ces ruptures, dans ce contrebalancement
Moi, j'arrive, j'ai sur mon téléphone, dans mon dictaphone, je fais mes petites chansons, guitare-voix,
Après, il nous envoie un mail avec la chanson.
Voilà, et puis après...
J'en ai reçu un tout à l'heure, j'ai pas encore écouté, Étienne.
J'attends ton débrief.
Il y a des choses dans les tuyaux, donc.
Mais ouais, toujours. Je balance une chanson guitare-voix, plein, et puis après... les gars, ils me disent ça, on a envie de bosser, ça, voilà. Et à partir de là, les arrangements, on est tous, on balance
n'importe
tous
notre pierre à l'édifice. Et c'est vrai qu'après, il y a toute une exploration de chacun a ses idées, même pour les instruments des autres, et on essaie de dire si on essaie comme ça, comment ça fait. Ouais, non, en fait, c'est nul, on revient en arrière.
Ça, c'est Nico, le spécialiste. Voilà. Il nous fait bosser pendant des heures. Non, mais attendez, les gars, j'aimerais bien essayer tel
quand
truc. Et t'es là, tu passes une demi-répète, et puis à la fin, non. Mais en fait, c'était mieux ce qu'on faisait au début. Quoi.
Mais ça a le mérite d'avoir été essayé.
Mais ouais, il faut carrément. Parce que tu grattes toujours des petites choses. Des petites nuances que tu intègres finalement.
Et justement, il y a l'importance du live. Alors, il y a eu tout un processus dans votre, on va dire, dans votre genèse, dans la montée de votre groupe, qui a été le confinement de 2020. Hein, tout le monde en est là.
Tragique.
Vous fonctionniez presque exclusivement par le live, et ensuite venait l'idée d'enregistrer. Là, ça s'est traduit autrement. Et quel est ce rapport au live et à l'enregistrement? Vous privilégiez uniquement le live et puis l'enregistrement, c'est un plus? Ou comment ça se passe? Vous êtes fier de l'objet quand même? Ça vient complémenter? Ou alors ça s'équilibre complètement?
On aime les deux. Après, ouais. Et les deux sont importants et les deux se travaillent. Effectivement, le Covid a fait que... on a plus passé du temps en studio et on a voulu vraiment aller jusqu'au bout des enregistrements, des arrangements, du son pour essayer de rendre une version la plus parfaite possible de ce qu'on pouvait faire pour chaque morceau qu'on a enregistré.
Okay.
Après, et puis vient après le travail du live qui est différent et qu'on a fait peut-être après ou en difficilement parallèle à cause de ça du coup. Mais les deux sont importants, forcément.
Parce que votre mode operandi, on va dire, ce serait plutôt de tester les morceaux en live et de les enregistrer après, ce serait ça? Ou alors maintenant, vous avez changé un petit peu de votre fusil d'épaule à cause des circonstances?
Non, après... le live, pour moi, c'est le... Enfin, c'est vraiment en termes d'émotion, de... C'est... ouais, c'est vraiment le truc, la rencontre avec le public, etc. L'énergie et tout ça. Mais et nos morceaux, ouais, d'avoir ce retour en direct, ça influe sur notre manière de réfléchir aux morceaux. À chaque fois, on débrief sur un live et tout, et on se dit, tiens, tel passage, tel truc. Donc, ça a une influence là-dessus. Après, pour moi, c'est deux temporalités différentes, en fait. C'est que, voilà, le live, c'est vraiment l'idée de l'énergie, de l'instant, de l'éphémère, de l'aspect unique de chaque représentation. Et le travail en studio, c'est plutôt se projeter dans un temps infini, on va dire. Et de se dire, le morceau, chaque morceau doit résister à... 150, 200, 300, 10 000 écoutes. Et donc, c'est un travail qui est, du coup, qui révèle d'autres aspects. Surtout que le studio, le son ne rend pas la même chose. Il y a le studio va vite te niquer un peu de l'énergie. Excusez-moi pour le terme.
Non, tu as le droit. Tu as le droit. Aucun souci.
Et donc, du coup, tu es obligé de remplacer cette énergie propre au live par d'autres substituts en termes d'arrangement, de son, etc.
D'accord.
Et donc, ça se fait écouter les morceaux d'une autre oreille.
Ok. Mm-hmm. Ouais, non, mais c'est cool. Et les 10 000 écoutes et bien plus, on le souhaite, bien évidemment. Mathieu, tu voulais...
Je me demandais, est-ce que vous en avez... Là, c'est votre premier EP.
Ouais.
Il y a 4 titres.
Ouais.
Et du coup, vous en avez combien en live ?
En live, on en a une bonne quinzaine.
Mmh. Ouais. Ah, d'accord.
Et on en a, enfin, ouais, on en là, on a.
Vous avez de quoi faire un vrai set, quoi.
Ouais. Dans le set, on tient quasiment 2 heures, quoi.
Ah oui.
Ouais. À 1h30. Ouais.
Une bonne heure et demie.
Et donc, il y a eu le choix.
Du coup, on va aller vous voir. C'est cool.
Ouais. Et il y a eu le choix. On reparlera. On va tout dire sur live, enfin le plus exhaustif possible. Il y a eu le choix de donc ces 4 titres. On va peut-être en reparler après pourquoi cela. En attendant, il y a Benoît qui va nous proposer quelque chose parce qu'il a sa couleur musicale du soir aussi. On va être un peu plus dans l'électro pop rock. Enfin, un petit mix de tout quoi.
C'est ça. Je vais vous parler d'un duo, d'un binôme qu'on a déjà écouté l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'appelle 100
Gigs.
Exactement,
ouais,
ils sont américains. Ce binôme est composé de Laura Les et Dylan Brady et ils font ce qu'on appelle de l'hyperpop.
Ouais.
Je ne sais pas si vous, les gars, ça vous parle le terme hyperpop.
Non.
Il y a tellement de courants musicaux.
C'est de la pop sous hormones, mais pas encore du rock.
Non, mais
quoi.
Maintenant, il y a tout. Il y en a power pop. Moi, ça me parle, mais hyperpop, j'avoue.
Eh bien, on va découvrir.
Eh bien, la définition de Mathieu n'est pas fausse. Hein. Pop sous hormones,
c'est ça. Je dis des conneries, mais.
En gros, vous prenez. Toute la pop, mais toute, de tous les styles musicaux des années 90-2000, vous la mélangez, vraiment, vous la mélangez.
Shaker.
Vous mettez un peu de saturation dans votre shaker, un peu d'autotune, et hop, vous avez de l'hyperpop.
Ça me plaît, ça.
Le fameux.
Un petit peu d'autotune.
On saupoudre d'autotune.
Je vois que Simous, c'est pas... toi, t'es pas réfractaire. Hein. Es-tu un défenseur, mon Simous, de l'autotune, toi
Non, je suis pas un défenseur de l'autotune.
Je serai le seul autour de cette table. Enfin bref, quand c'est bien
avec
utilisé,
Benoît.
C'est bien. Et donc, Benoît, ouais.
Exactement. Écoutez, le morceau qu'on va écouter s'appelle Doritos and Fritos.
Allez,
voilà.
Ça tombe bien, on a faim. Allez,
allons-y. Qui parle de frites, de Doritos et de fromage, et je vous propose de l'écouter sans plus attendre.
C'est tout de suite dans Indie Ways.
Punch the referee.
jusqu'au dernier Larsen. On est comme ça ici avec 100 Gecs. C'était présenté par Benoît. Et Doritos and Fritos, tu nous as régalé, mon cher Benoît.
Et bah avec grand plaisir.
Et as-tu quelque chose à rajouter sur nos amis? Donc c'est une toute nouvelle sortie. Là,
exactement. Et bien, il semblerait, alors c'est encore très mystérieux parce qu'ils ont une manière de communiquer qui est proche du néant. D'accord. En description du morceau sur YouTube, ils ont mis 10,000 soon.
Ouais.
Faut savoir que leur premier album qui est sorti en 2019 s'appelait 1000. Voilà. 1,000.
1,000.
1,000 dozen.
Jex, on va dire ça comme ça,
c'est
avec
ça.
Un G comme.
Ouais.
Comme
ou sans Jex, si vous voulez faire peu d'efforts, vous avez le droit.
Ouais, moi, c'est ce que j'ai lu.
Oui,
j'ai
oui.
Non.
Voilà, en tout cas, cet album, je l'attends avec impatience.
On a une espèce de principe de prononciation de Indie Ways, voilà. Simous est au courant.
Moi, je ne fais pas d'efforts.
On a même un glossaire à nous et tout. Machin, tout à l'heure, j'avais envie de vous parler du coupé-décalé, mais c'est parce que c'est entré dans le glossaire, c'est Émilie qui n'est pas là, qui nous l'avait glissé.
Ah oui, bah
le
oui.
Fameux coupé-décalé. Donc, en l'occurrence, okay, avec, right. Avec vos systèmes de rupture. Étienne est là, David aussi. Et puis, pourquoi j'ai dit... Oui, c'est ça. et donc, on voulait parler aussi du choix des morceaux. On en parlait juste avant. Comment vous avez choisi, vu que vous avez un set live de 15, ces 4 morceaux, et pourquoi ceux-là dans l'EP, et quelles ont été les démarches et principes de production qui vous ont amené à ça?
Je dirais déjà quand je suis arrivé dans le groupe, il y avait déjà plusieurs morceaux.
Mm-hmm.
Et c'est les premiers qu'on a composés ensemble, en fait, je crois. Non.
Ouais, en fait, dans les quatre, il y en a un qui existait déjà, Summerson, avant que tu arrives. Et les trois autres, on les a fait ensemble. Et Desert, In the Desert, c'est le premier qu'on a composé ensemble. Et au niveau du choix...
C'est apparu comme une évidence.
Au
quoi.
Niveau du choix, on cherchait les morceaux sur lesquels on... Enfin, tout à l'heure, on parlait du live et du studio. En fait, ces morceaux-là, ils avaient beaucoup tourné en live. Et donc, on les avait fait évoluer. On se sentait assez à l'aise avec... en se disant, on va pas enregistrer des morceaux qui sont un peu frais et dont on risque de regretter des parties d'arrangement,
des murs.
Et puis après la cohérence, quoi. C'était pas juste prendre des morceaux confort, c'est que derrière il faut que les quatre ils amènent à la fois une dynamique de progression entre les différents morceaux, et puis
c'est un peu quatre ambiances différentes aussi. C'est vrai qu'il y a le morceau on va dire plus pop, il y a le morceau indé un peu plus sombre, il y a la balade, et puis le morceau un peu de salle de ambiance pour finir, quoi.
Ça, donc dans la conception même de l'EP, il y a eu cette réflexion de niveau
L'idée différent. C'est de pouvoir montrer on n'est pas un groupe où on fait juste une variation, on va dire, sur un même morceau ou sur un même type d'arrangement.
Ouais.
On aime bien explorer des trucs. Donc, on voulait que sur les quatre morceaux, il y ait à la fois quatre morceaux différents, okay, et en même temps qu'il y ait une cohérence à la fois dans les couleurs ou les dynamiques, et puis en même temps au niveau des thématiques ou des... Enfin voilà, on voulait qu'il y ait à la fois une diversité tout en étant cohérent, quoi.
Ok. Bon, ça c'est, en tout cas, c'est super, ça donne très bien. Et on va parler aussi, on n'a pas encore parlé de l'univers des paroles, à proprement parler, des thématiques abordées, ce que vous en pensez, comment elles viennent. Mais on va écouter d'abord le single. Donc c'est un peu le morceau fédérateur de l'EP, on peut dire ça comme ça, puisqu'il y a un clip qui va avec,
ouais,
etc. Toute une imagerie. On essaiera de parler aussi de votre imagerie, parce que je crois que vous avez bossé avec quelqu'un qui est important pour vous, forcément, puisqu'il a confectionné toute l'image autour de vous. Mais pour l'instant, on écoute le deuxième extrait de ce soir de l'album. Que je vous souhaite plus tard, mais de l'EP pour l'instant, de nos amis de Lame, et c'est Summerson, le clip correspondant est disponible sur YouTube. Et on
absolument.
On reparle de tout ça après. Pour l'instant, Summer Sun, c'est Lame dans Indie Ways sur Prune 92 FM, le www.prune.net.
En direct et sur Prune 92 FM.
Et oui, en direct sur Prune 92 FM, le 3w.prune.net, avec à l'instant le deuxième extrait de l'EP de Lame, c'était Summer Sun. Alors ce single, accompagné d'un clip, avec des paroles, il est fédérateur sur votre EP. Pourquoi celui-ci? Et ce qui nous amène à la question aussi des paroles, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça raconte, et comment ça s'écrit? Si vous voulez ne pas en parler, c'est
maintenant.
Voilà. Ne pas en parler, c'est maintenant. Voilà.
Je fais valoir. Non. Qu'est-ce que
ça peut être très personnel. Hein. C'est une question qui va.
Non. Après, enfin, ce morceau spécifiquement, de quoi il parle. J'ai toujours dans les paroles une approche, on va dire, j'aime bien garder une certaine ambiguïté, des doubles sens, des interprétations multiples. Après, ouais, enfin, Summer Sun, c'est, alors ça parle pas du tout de soleil d'été. En général, j'aime bien, comme je disais tout à l'heure,
cultiver le paradoxe.
Plus les trucs sont dark et plus je mets un titre joyeux, tu vois, comme ça. Donc Summer Sun, ça parle plutôt de on va dire de dépression, et en même temps avec une petite note positive quand même, qui est que au final, dans la chanson, je pense que la possibilité de l'amour remplace le bonheur, on va dire.
Ah bah tu vois que t'as... Pardon.
C'est très philosophique.
Tu me mets un chat dans la gorge. Tu vois que t'as réussi à en parler correctement. Non, mais ça c'est bien. Et les paroles viennent avant la musique ou alors s'intercalent? Vous écrivez ensemble des fois les paroles? Vous corrigez vous-même?
C'est essentiellement Étienne. Moi, j'ai... on lit les paroles,
okay.
Puis on évite de trop déprimer.
Ouais.
Et on prend les. non, c'est ouais. Non, je.
Mais les paroles sont là avant
Non. Enfin, en fait, en général, moi, j'ai les mélodies qui viennent, mais toujours. Il y a toujours des mots aux endroits clés, quoi. On va dire.
Okay.
Je sais pas comment l'expliquer, mais enfin voilà, je fredonne happiness, enfin
ouais.
Et donc après il y a cette espèce de ces 4-5 mots qui sont dispatchés dans le truc, et à partir de là je me dis qu'est-ce que ça raconte, et
c'est ce qu'on appelle le processus du yaourt. On les a eu avec Tickles qui nous disait d'abord c'est du yaourt et puis après ça vient
pas du yaourt intégral, mais c'est en général
il y a du yaourt avec des morceaux de fruits dedans.
c'est du nanana avec des mots, et après à partir de là j'essaie je construis le truc, quoi.
Phrase.
Et dans le processus même alors vous êtes autoproduit, comment ça s'est passé, les démarches pour aboutir à cette EP? Vous avez eu l'occasion d'enregistrer avec Trampo, c'est ça? Expliquez un petit peu le processus.
Bah en fait, au Trampo, on bosse avec eux depuis toujours, enfin en tout cas depuis les début du groupe, et il se trouve qu'on a toujours enregistré nos démos avec Seb, qui est l'ingé son du studio d'enregistrement de Trampo, et qui est devenu un ami avec les années. Donc l'avantage, c'est que lui, il a vraiment suivi tous nos débuts, tous nos questionnements musicaux. Moi, j'ai beaucoup passé des heures avec lui, qui est aussi un passionné de musique, donc
Il a souvent de bons conseils aussi.
Ouais, voilà, enfin, toujours à l'écoute.
Il s'intègre parfaitement dans notre style aussi, je trouve.
Quand on a cherché à... Quand on s'est mis à réfléchir sur l'enregistrement, naturellement, on s'est dit qu'il fallait qu'on bosse avec lui. Et voilà, après...
Combien de temps pour enregistrer cette EP de 4 titres? L'enregistrement, hein, pas tout le processus, mais on va dire l'enregistrement pur et dur en studio.
En studio, je crois qu'on a dû faire 7-8 jours, un truc comme ça, de studio.
Il y a du peaufinage, quoi.
Ouais. Après, il y a une partie, toutes les voix, par exemple, on les a enregistrées dans mon salon.
Ok. C'est cool.
Ouais. Mmh.
Bon, y en a bien qui enregistrent dans des baignoires. Hein, parce que... bon, je dis ça parce que je... non, c'est des processus de production, il y en a plein. Hein.
Tu vois ce que tu veux chez toi, mais...
sur le troisième album de Franz Ferdinand, que vous connaissez sûrement, il y avait une utilisation d'une baignoire avec des os humains. Quoi. Voilà. Donc, non, mais les processus de production.
Avec des os humains.
Ouais.
C'est interdit, ça. Hein.
Ah, c'est une légende urbaine Franz Ferdinesque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, j'ai tellement lu sur ce disque. Enfin, bref, on va pas trop. Digresser, mais
on
non,
change
mais,
de sujet.
Mais très très bien, on change de sujet, mais merci de rebondir là-dessus. Donc très très bien, et ça, donc l'EP est sorti en janvier, et vous allez l'accompagner, on va parler après de vos dates, etc., tout ça. Maintenant, ça va être le troisième morceau d'accueil, parce que chacun va y couper ici, et c'est Mathieu. Est-ce que vous aimez le métal ou le stoner, enfin ce genre de choses, ça
ouais.
vous parle hein
ouais. ouais, ouais. Mmh.
Okay. Je vous ai pas mis du gros death. Hein.
Il a été soft avec vous et c'est pas tout le temps le cas avec tout le monde. Je vous assure, c'est Mathieu maintenant qui tient la barre musicale.
Ouais, alors on va plutôt aller dans Stoner Doom, effectivement, un groupe anglais qui vient de Birmingham qui a commencé en 2010 qui s'appelle Aluna, dont je voulais vous parler parce qu'ils viennent de sortir leur cinquième album. Mm. C'est sorti le 15 avril. L'album s'appelle Strange Machines. C'est vraiment bien si on aime quand on aime le style, hein, évidemment. C'est un groupe moi,
sinon,
j'aime beaucoup.
Sinon, tu ne l'aurais pas présenté.
Exactement. C'est un groupe qui a beaucoup tourné avec Paradise Lost, The Obsessed, Mondo Generator notamment. Ils ont fait beaucoup de festivals et tout. Et on trouve assez peu d'infos sur eux. En fait, ils ne disent rien d'eux, ce qui n'est pas plus mal. Enfin, je ne sais pas trop comment.
On aime bien ces petits côtés.
À la limite, ça focalise sur la musique et puis pourquoi pas, en fait.
Tout à fait.
Voilà. Et je vous propose d'en juger maintenant.
Avec plaisir.
Puisqu'on va passer tout de suite The Earth Spins, donc extrait de leur cinquième album Strange Machines.
Yes, et on se retrouve tout de suite après avec Lame, qui sont toujours là. À tout de suite. jusqu'à la fin du riff, comme d'habitude, avec Mathieu qui nous a emmené chez Aluna avec The Earth Spins.
Ouais, Aluna voilà. Avec un H à la fin. A-L-U-N-A-H.
Ouais, mais non,
je précise pour les gens qui nous
écoutent. De préciser, ces gens sont, ont une actualité et donc une actualité future aussi que tu as envie d'évoquer
Je suppose qu'ils vont être en tournée. J'ai pas vu ça pour l'instant, mais. Ouais. Leur dernier album est très très bien.
Okay. Est-ce que vous avez aimé
Vous n'êtes pas obligé. Hein.
Ne se prononce pas.
Moi j'aime bien pas. J'aime bien aussi.
Je suis un peu chambreur.
Je faisais autre chose.
Non, c'est plutôt écoutable. Hein.
Mais c'est trop trop bien. Et puis moi,
on sent l'enthousiasme. C'est plutôt écoutable.
Non, mais moi j'adore. En plus j'adore moi le stoner quand j'en écoute. Non, c'est vraiment de la. La petite boutade, mon cher Mathieu.
Je vais rentrer chez moi.
Hein. Il veut partir avant la fin de l'émission. Mais mais c'était très bien ça. Donc on le rappelle, pardon, j'ai un chat dans le garde, Aluna avec The Earth Spins. Et puis pas d'actualité Hellfest, parce que j'y pensais, moi ça fait partie de ce que...
Pas que je sache.
Pas que tu saches. Mais peut-être dans un temps futur.
Peut-être.
Peut-être avec...
J'en reparlerai.
Tu en reparleras. Tu reparleras d'eux ou tu reparleras...
Je ne sais pas. Ça va dépendre de mon humeur.
Là, tu es en hésitation totale. on est toujours avec les amis Étienne et David de Lame. On voulait parler un petit peu de leur, de tout ce qui tourne à l'imagerie chez eux. Parce que vous avez bossé, bien sûr, avec un graphique. Parce qu'il y a l'EP en dimension physique. Vous le distribuez en physique. Donc, comment ça s'est passé pour le faire, pour le promouvoir? Et puis, avec qui vous avez bossé là-dessus?
Alors au niveau du graphisme, c'est Loen Green Papadato, c'est le frère d'un très bon ami à moi qui a accepté de travailler pour nous, de faire l'image de la pochette et qui est, à notre goût en tout cas, très bien réussi. Donc on est très content de ça.
On le salue, on le remercie encore.
Mais pour nous c'était important de.
Il a eu carte blanche. Pensé...
Ouais, enfin, en fait, pour moi, tout ce qui est le visuel, c'est un truc important. Enfin, moi, j'ai été biberonné tous les albums mythiques, que ce soit les albums des Beatles, Abbey Road, Nevermind. Enfin, tu vois, il y a des tas de pochettes qui sont tellement iconiques qu'elles sont indissociables des musiques auxquelles
tu vois le disque, elles sont accolées. Tu entends la musique et inversement, quoi.
Voilà, et du coup, enfin, moi, je voulais, à toute proportion gardée, être dans cette démarche-là. Et du coup, quand David m'a montré le travail de Loen Green, j'ai tout de suite vu des influences communes. À partir de là, on s'est contacté. On a beaucoup, en période de confinement et tout, donc on a beaucoup fait au téléphone. Et on a parlé des heures... Donc, il s'est inspiré des musiques qu'on lui a envoyées à l'état de maquette. Et je lui ai envoyé toutes les paroles, machin. Puis on a beaucoup discuté justement toute cette notion de paradoxe, intérieur, extérieur.
Des mots-clés, et à partir de ça, il n'y a pas eu plus d'indices que ça. Quoi.
C'est marrant parce que les deux mots qui me sont venus en voyant la pochette, c'est concret, abstrait.
Ça faisait partie des mots-clés, effectivement.
C'est marrant parce qu'il y a un truc dans la cohérence, mais la cohérence qui cultive cette image de paradoxe, on va dire, qu'on a depuis le début, et dans la musique, et puis donc dans l'imagerie. Donc, moi, je trouve que la boucle est bouclée entre l'imagerie et la musique, ce que vous avez fait. Quoi.
Ouais, surtout que le truc, c'est que derrière... En fait, ça a eu une influence. Une fois qu'il a fait le visuel, on était en train d'enregistrer du coup en studio. Et à la fin du processus, en fait, ça nous a influencé sur l'intro du premier morceau, Summer Sun.
Ouais.
On galérait un peu en studio, on était en train de batailler sur cette intro.
Il y a eu un petit retour.
Et il y a eu une espèce de déclic à un moment donné. Je me suis dit, mais le truc, c'est que voilà, les gens vont découvrir via le visuel le disque. Et j'ai envie qu'il y ait une continuité entre l'impression visuelle qu'ils ont eue et les premières notes qu'ils entendent. Ouais. Et du coup, en fait, on a retravaillé l'intro en faisant une espèce de version sonore du visuel, quoi. Donc, du coup, enfin voilà, pour le coup, la boucle était
la
bouclée.
La boucle est définitivement bouclée. On va nous aussi boucler la boucle parce que il est temps. Malheureusement, ça passe beaucoup trop vite. Et c'est Simus qui va intervenir pour votre promo. Si vous voulez lâcher des trucs, c'est maintenant, mon cher Simus.
Ouais, c'était pour là, vous avez fait un EP. Est-ce que vous avez prévu de faire un album ou un deuxième EP dans les prochains mois?
Alors, on va sortir quelque chose dans les prochains mois. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mais voilà, c'est du teasing. Mais ouais. Et après l'album, ça fait partie des trucs sur lesquels on réfléchit. Après, il faut arriver à dégager du temps et puis des financements aussi, puisqu'on est autoproduit. Donc,
d'ailleurs, on en profite pour remercier les Ululeurs.
Ouais, qui ont participé, qui ont rendu l'EP possible.
Un certain monsieur tout nu aussi, non ?
Monsieur tout nu, ouais, exactement.
Qui est en face de nous, là.
Yes.
Il nous a bien aidé.
Et donc, dans l'absolu, vous êtes trouvable sur toutes les plateformes. Vous avez bien sûr votre Bandcamp. Tout est achetable. Vous avez également un site internet.
On est à vendre.
Vous êtes à vendre. et vous avez un merchandising.
Exactement, qu'on peut trouver sur notre site internet. Le mieux, c'est encore au stand de merch en concert.
Ouais.
Parce que la musique se vit live, je le rappelle.
Et justement, les prochains concerts, est-ce qu'il y en a des prévus? Dites-nous tout.
Le jeudi 12 mai.
Jeudi 12 mai, ouais, à Nantes, à Trempeau. Et puis après, on va partir en Bretagne, en Côte d'Armor, début juin.
Grand bien vous fasse.
Et puis après...
non mais je dis ça avec tellement d'enthousiasme. Non, j'adore.
Et surtout, la tournée va reprendre vraiment à partir de fin août. À partir de fin août, là, on va enchaîner vraiment des dates un peu partout. On a déjà la Normandie, l'Auvergne, Paris...
D'accord.
Voilà.
J'essaie de regrouper tout ça, j'imagine, pour éviter les trajets intempestifs.
On essaie d'organiser des petits périples sympathiques.
Évidemment, toutes les dates sont à retrouver sur
nos réseaux,
Facebook, Twitter, des choses comme ça.
Instagram, Facebook, Insta. Voilà.
Ouais. Ok. Ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire qui n'a pas été dit dans cette émission ? Une dernière question avant de se quitter. Ah, le silence en dit long. Bon, très bien. Bon, c'est parfait.
Non, ça a été parfaitement exhaustif.
J'allais parler politique, mais je n'ai pas envie.
Ouais, alors, ça va être le moment. Mais en attendant, alors, on n'a pas eu le temps de passer le troisième morceau de l'EP, malheureusement, parce que, c'est les lois de l'interview. Mais pour rafraîchir tout le monde avant ce qui va suivre pour la plupart d'entre nous, vous avez le mot de la fin musical sur un morceau que vous avez amené et pourquoi vous l'avez amené, présenter un petit peu.
Un morceau d'un groupe qui s'appelle Emily and the Loco Project Band, qui est un groupe de Nantais, de copains à nous.
C'est des potes.
Voilà, tout à fait. Et ils sont non seulement c'est des potes, mais ils sont talentueux. Donc voilà, on voulait les mettre en avant ce soir.
Eh bien, ils seront en avant à la fin de cette émission. Merci Étienne, merci David d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir et vous revenez quand vous voulez dans Indie Ways, bien entendu. Merci Mathieu pour ton apport et puis ta bonne humeur et ton feu. Avec Mathieu, on ne peut pas se regarder sans rigoler. et Benoît, merci pour la réa pour ton apport de couleur musicale également. Merci Simus d'avoir été là aussi avec nous.
Merci
et
pour
de nous avoir rencardé sur cette
avec plaisir,
invitation
hein.
Avec Claim. C'était magnifique. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave parce que c'est la playlist à suivre sur Prune. Il n'y a pas de trafic d'influence cette semaine, qui est l'émission qui nous suit normalement, parce qu'il me regardait avec des yeux bizarres quand j'ai dit trafic d'influence. Donc, donc voilà. On se retrouve quant à nous. On se retrouve pas la semaine prochaine. Il n'y a pas d'émission pour cause interne à Prune. Et puis on se retrouve tout début mai. Et on vous souhaite d'ici là bien de la chance, du plaisir. Portez-vous bien. À très vite. Ciao, ciao.